Chers amis du Libre Journal de la Transmission, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous. Rendez-vous d'une heure et demie avec trois invités avec qui nous allons pouvoir approfondir des sujets tendus, des sujets cruciaux. Je reçois Benoît Dumoulin. Bonjour Benoît.
Bonjour Valérie.
Vous êtes directeur du développement d'Ictus. Vous nous direz ce qu'est Ictus. Vous êtes aussi à l'Institut Cap Sud Méditerranée, l'Institut du Pont Neuf. Vous enseignez l'histoire des idées politiques et le droit constitutionnel. Vous avez publié il y a quelques années « Charnellement de France » avec Charles Becbédé en 2016. C'est très intéressant. Vous posiez déjà tellement de bases de sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Et vous voici l'auteur de « Quelle laïcité pour demain ?» aux éditions Bolène, livre qui vient de sortir et qui va être l'objet de notre discussion pendant une heure et demie avec votre éditrice Bénédicte Bernard qui va nous rejoindre et avec Diane de Bourguedon. Bonjour Diane.
Bonjour Valérie.
Je suis ravie de vous accueillir, Diane. Nous allons pouvoir avec vous porter un regard aigu sur ceux qui sont rejetés par les élites et vous qualifiez ce rejet de prolophobie, les indésirables prolophobie. C'est le titre de votre essai chez Fayard dans la collection dirigée par Sonia Mabrouk, cette collection qui permet d'avoir des essais qui sont des coups de gueule, qui sont forts, qui sont puissants. Voilà, il y a beaucoup de ponts entre nos sujets, la laïcité, la prolophobie, l'état de notre pays aujourd'hui en 2026, et je suis très heureuse que nous puissions faire un pont entre tous vos regards. En ces premiers mots d'introduction, je voudrais aussi vous souhaiter, chers amis auditeurs, une très belle semaine sainte. Nous commençons en ce lundi, cette semaine qui nous conduit vers Pâques, qui nous conduit vers la lumière, la joie de la résurrection. Et pendant cette heure et demie, nous serons dans notre sujet, je vais dire. Servir la France par ses racines chrétiennes, comprendre ce qui est abîmé, ce qui est à faire ressurgir. Nous allons donc passer du temps ensemble pour qu'à travers vos regards croisés, et a priori non divergent, je le dis à nos auditeurs, ce n'est pas un débat. De toute façon, dans mes émissions Libre Journal de la Transmission, ce n'est pas ce que je recherche. Je recherche plutôt un approfondissement et des clés pour agir, comprendre et agir. Donc c'est ainsi que nous allons nous plonger dans cette question de la laïcité. Laïcité que dans notre société républicaine, nous associons, enfin est associée, on va peut-être pas dire nous, à la devise liberté, égalité, fraternité, laïcité. Alors notre objectif est de cerner le piège refermé sur le monde catholique, l'effacement des racines chrétiennes de la France, la lutte contre la présence visible de la religion qui a constitué notre nation. Je voudrais que nous trouvions des armes pour exercer notre liberté, parler à nos enfants en étant à contre-courant de ce qu'ils entendent à longueur de journée sur la question de la laïcité, en cours, dans les supports culturels, dans ce qu'ils vivent au quotidien. Je voudrais, chers auditeurs, que vous repartiez au bout de cette heure et demie avec des outils, avec l'envie, l'enthousiasme, mais aussi des outils. Et puis, avec Diane de Bourguedon, avec sa capacité à repérer et dénoncer les incohérences des instances qui nous gouvernent, des incohérences de la justice, des médias, nous espérons, chers auditeurs, rejoindre votre indignation, votre tristesse peut-être, de voir notre pays si mal engagé, votre compassion pour la fille aînée de l'Église. Je reprends cette expression que le cardinal Sarah a remis en lumière avec Christine Kelly vendredi soir sur CNews. Il disait que la France resterait la fille aînée de l'Église parce que quand on est fille aînée pour toujours. Mais comment? Et je pense que dans la dernière partie de notre émission, c'est ainsi que nous conclurons. Donc voilà, chers amis, voilà le programme et Bénédicte Bernard vient de nous rejoindre. Bonjour Bénédicte.
Bonjour Valérie.
Alors Bénédicte, vous êtes vous aussi passionnée par cette question de la laïcité depuis votre thèse de doctorat. Vous êtes docteur en droit canonique, vous avez exercé en tant qu'avocate, enseigné le droit à Paris Panthéon-Sorbonne. Vous êtes auteur de « Laïcité française et sécularité chrétienne », c'est votre thèse doctorale qui a été publiée chez l'Harmattan il y a quelques années. Et vous êtes directrice des éditions Bolen. Donc, c'est sous votre direction que Benoît Dumoulin a rédigé, travaillé ce livre « Quelle laïcité pour demain ?» avec une préface de Mathieu Bock-Côté aux éditions Bolen et qui vient de sortir. Voilà, donc le décor est planté, les amis. Maintenant, nous allons avancer, nous allons croiser nos regards. Je vais peut-être commencer avec vous, Benoît Dumoulin. En vous demandant pour achever cette présentation, j'ai évoqué le mot ictus, I-C-H-T-U-S. Alors dites-nous ce qu'est ictus, Benoît Dumoulin.
Ictus, c'est l'anagramme des premiers chrétiens, Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur, en grec. Et donc c'est naturellement le sigle d'une association que je dirige et qui a pour objectif de former les laïcs catholiques à l'enseignement social, politique et culturelle de l'Église, toute la vision de l'homme et de la société que l'on peut qui vient de l'Évangile et qui a été mûri pendant des siècles et des siècles jusqu'à l'époque contemporaine, la façon dont on peut comprendre toutes les réalités profanes du monde à la lumière de la loi naturelle et la révélation chrétienne. Alors donc formation. Mais le but, ce n'est pas uniquement de former des laïcs catholiques, c'est aussi de faire en sorte que, étant formés, ils puissent agir au service du bien commun. Et on fait toujours ce lien entre les deux, c'est-à-dire que nos formations ont un objectif, certes intellectuel, ouvrir l'esprit des gens de tout âge d'ailleurs qui sont là, à des sujets très divers, mais à chaque fois, l'idée est que, muni de cette formation, ils puissent agir au service du bien commun. Alors ça veut dire qu'en fait, on essaye de leur donner la conscience que le monde dans lequel on vit, eh bien, c'est un monde dont on est responsable. Et donc, si eux n'agissent pas, ils n'accomplissent pas leur vocation de chrétien. Et là, c'est vraiment, peut-être que Bénédicte en parlera, mais c'est la vocation du laïc telle qu'elle a été précisée par le Concile Vatican II. Et donc, il nous appartient à nous de mettre en œuvre ce bien commun. Et pour le mettre en œuvre, il faut d'abord connaître qu'est-ce que le bien commun, qu'est-ce que la personne humaine, et comment ensuite on le met en œuvre, et comment surtout on le fait dans le cadre de son état de vie de laïc.
Et la question de la laïcité est une sorte de, je ne vais pas dire fil conducteur, mais enfin c'est tout de même un objet d'étude de la part d'Ictus qui revient fréquemment. Je pense par exemple à votre cycle actuel « Les mardis d'Ictus ». Eh bien, la laïcité est plusieurs fois évoquée. Donc vous, Benoît Dumoulin, vous êtes expert d'une certaine manière par vos travaux d'Ictus ?
Non, je ne sais pas. Et puis je ne sais pas si c'est un compliment d'être expert, en fait. Là où vous avez tout à fait raison, c'est que il y a une histoire vraiment très profonde à Ictus et une sensibilité à cette question de la laïcité, parce que Ictus est une des associations héritières de la Cité catholique avec Jean Housset. Et Jean Housset, que nos auditeurs, à mon avis, connaissent, dans les années 50, avait publié un magnifique ouvrage qui s'appelle « Pour qu'il règne », donc sur la royauté sociale du Christ. Et il y a quelque temps, nous-mêmes à Ictus avons organisé un colloque sur le centenaire de Quas Primas, donc l'encyclique du pape Pie XI qui a institué cette fête du Christ roi. Et donc l'idée, c'est de, moi, enfin, on en parlera après, mais l'idée, c'est que j'ai vraiment essayé de montrer comment on pouvait articuler ce principe de laïcité avec la royauté sociale du Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, la royauté sociale du Christ, le règne du Christ, qui n'est d'ailleurs pas que social, mais le règne du Christ sur le monde, dans nos vies, qu'est-ce que cela signifie pour un chrétien aujourd'hui?
Excellente entrée en matière que vous pourriez compléter, Bénédicte Bernard, vous qui êtes l'éditrice de Benoît Dumoulin aux éditions Bolen pour son essai « Quelle laïcité pour demain ?» Vous-même, auteur de « Laïcité française et sécularité chrétienne », je le disais, chez l'Armatan en 2016. Dites-nous, Bénédicte, dans quelle perspective de transmission, parce qu'on est dans le libre journal de la transmission, s'inscrivent vos travaux et l'édition de ce livre avec Benoît Dumoulin ?
Alors, tout d'abord, quand Benoît m'a contacté pour la publication de son livre, c'est vrai que j'ai trouvé, le manuscrit était déjà bien avancé, le plan était déjà fait. c'était à peu près la synthèse de ma thèse, ce que j'aurais voulu écrire, que je n'ai pas eu le temps d'écrire. Parce que quand on est éditeur, on publie beaucoup de livres, mais pas forcément les siens. Donc voilà, c'est une belle synthèse pour comprendre un petit peu les ficelles de la laïcité aujourd'hui. Parce que j'ai conscience qu'une thèse, c'est compliqué à aborder. C'est peut-être plus technique, tout le monde ne va pas la lire. En revanche, un petit livre de synthèse qui donne les ficelles, c'est très important.
Quand vous dites ficelles, Bénédicte,
les ficelles, c'est
j'entends...
comprendre...
Oui, qu'est-ce qu'on entend avec ficelle? Je trouve alors, que déjà ficelle, avec ce mot, ça sent le piège.
Ah oui, ça sent le piège.
Ça sent la nasse.
Alors effectivement, plutôt que ficelle, on va parler de fil d'Ariane, qui serait peut-être plus judicieux, effectivement. En fait, quand je parle de fil d'Ariane, c'est parce que pour moi, il y a vraiment un processus de sécularisation qui s'est opéré en France, notamment. Alors la laïcité, on va parler dans un cadre français, parce qu'en fait, il y a plusieurs laïcités. On pourrait parler de la laïcité américaine, bon, celle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est la laïcité française. On a tout un processus de sécularisation qui nous vient de très loin. D'où l'importance d'étudier aussi les bases historiques de la pensée actuelle. Parce qu'en réalité, si on a eu besoin d'une sécularisation, c'est parce qu'on avait une cléricalisation. Et donc aussi une mauvaise compréhension du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, de leur articulation. Qui a pu être comprise à certains moments comme des pouvoirs indirects de l'un dans l'autre.
On va y revenir.
Donc on reviendra sur cette question parce qu'elle est essentielle. Mais voilà, pour moi, il y a un fil directeur qui est celui de la sécularisation dans lequel on est pris. On a tout un mouvement qui nous vient quand même de loin. Et quand on le comprend, je trouve que ça donne des perspectives pour l'avenir parce qu'on se dit, oui, je vois d'où vient la vague et je vois vers où elle va. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un fil conducteur.
Vous employez les mots, vous dites laïcité, on n'a pas encore dit laïcisme, vous avez dit laïcité française. Moi, je voudrais qu'on comprenne ce qu'est la laïcité à la française, dont on nous rebat les oreilles, on entend tout le temps ça, la laïcité à la française. Qu'est-ce que c'est, Bénédicte Bernard?
Alors, la laïcité, déjà, c'est un concept de soustraction. C'est-à-dire qu'en fait, la laïcité, c'est déjà... l'autonomie du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Donc une distinction des deux et une autonomie des deux, chacun dans leur sphère d'activité. Alors, si l'État recherche le vivre ensemble, la coexistence pacifique des personnes, l'Église, elle recherche clairement le salut des âmes, qui est de nature spirituelle. Donc on ne se situe pas sur les mêmes registres, on va dire. D'où la possibilité d'une laïcité équilibrée, juste et collaborative entre les deux. Maintenant, le laïcisme, qui est propre à la France pratiquement, très peu d'États vivent un principe de séparation stricte comme le nôtre. Je crois qu'on est assez unique dans le genre. On est dans un principe de séparation, d'exclusion du religieux de la sphère publique. Et c'est là où on tombe dans le laïcisme, qui est un principe d'exclusion plus que de collaboration.
Benoît Dumoulin, vous donnez comme définition... dans votre livre, une saine laïcité est un équilibre qui vise à ce que chaque citoyen se sente représenté dans la société. C'est la substantifique moelle de votre pensée.
Alors, en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est une phrase qui est extraite d'une lettre que Jean-Paul II a adressée deux mois avant de mourir, en février 2005. Il dit que, il adresse une lettre aux évêques de France au sujet du centenaire de la loi de 1905 et il dit, il faut que dans la société, il faut que l'État soit laïque pour que chacun puisse se sentir représenté, quelles que soient ses convictions. Mais il précise que la laïcité de l'État, ce n'est pas du tout la laïcité de la société. Donc ça, c'est une première distinction. Ce qui est très compliqué avec la laïcité, et moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Bénédicte, c'est que, en fait, le christianisme en est... la laïcité, je pense que c'est une vertu chrétienne devenue folle, pour reprendre le terme de Chesterton. C'est-à-dire que le christianisme a inventé quelque chose de génial qui s'appelle la distinction des ordres. On distingue le politique du religieux parce que, vous l'avez dit, ils ne poursuivent pas le même but. Le but du religieux, enfin du pouvoir de l'Église, c'est le salut des âmes. Le but du pouvoir politique, c'est le bien commun. Donc déjà pas le même ordre. Et ils ne procèdent pas avec les mêmes moyens. Il y en a un qui procède par attraction c'est le pouvoir spirituel, parce que pour la foi, bah, il faut la libre adhésion de l'intelligence et de la volonté. On ne va pas forcer les gens à adhérer. En revanche, le pouvoir politique, lui, peut procéder par la contrainte des corps, c'est-à-dire il peut effectivement, dans le cadre de sa souveraineté politique, contraindre. Donc, deux buts différents et deux modalités d'action différentes. Donc, le christianisme, à ce niveau-là, il a disjoint pour la première fois ses pouvoirs. Et en fait, il faut vraiment insister là-dessus, parce qu'on ne se rend pas compte de la libération que c'est. C'est-à-dire, avant, dites-vous bien que ce soit l'Empire perse, les Romains, en fait, le religieux et le politique sont mêlés, et l'empereur romain, par exemple, est divinisé. Il est Pontifex Maximus, qui a donné d'ailleurs le titre de souverain pontife. Mais donc, en fait, cette espèce d'éclatement, ça a empêché ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de totalitarisme, en faisant bien sûr un raccourci, parce que c'est un terme qui a été créé bien plus tardivement. Mais ce qui est vrai, c'est que pour la première fois, avec la distinction des pouvoirs, on a fixé une limite au pouvoir de l'État, en disant non, toi, tu, État, tu es tout à fait légitime pour t'occuper de ton domaine, mais pas pour empiéter sur le domaine du pouvoir spirituel.
Avec un ingrédient, après cette définition que vous nous donnez, vous l'ajoutez, au nom de l'intérêt supérieur de la société. Donc, au nom de l'intérêt supérieur de la société, j'y vois, moi, un but ultime commun, même si c'est par des chemins extrêmement différents. Et c'est comme ça que ça peut tenir.
Est-ce alors là, que c'est faux? Alors, en fait, là, il faut préciser les choses. Effectivement, c'est toujours, ça c'est extrait de la lettre de Jean-Paul II que je citais. Et effectivement, quand Jean-Paul II dit ça, en fait, il prend acte du fait que la population française n'est plus majoritairement catholique, on est plus de deux siècles après la Révolution française, et que du coup, bah, le bien commun et l'intérêt supérieur de la société, ce n'est pas le bien absolu, dans l'absolu, mais c'est le bien dans les circonstances de temps et de lieu. Alors, on dit que la politique, c'est l'art du meilleur possible. C'est pas l'art du meilleur dans l'absolu. Et donc là, effectivement, bah, il faut tenir compte des circonstances qui sont le monde tel qu'il existe, et la France telle qu'elle existe. Alors, j'ai pas tout à fait répondu à votre question. On a parlé de la distinction des pouvoirs qui est bien sûr un élément du christianisme, mais cette distinction des pouvoirs est devenue ensuite une indépendance des pouvoirs, mais de manière totale. Parce que quand on dit distinction des pouvoirs, ça veut dire que le pouvoir politique, eh bien, il est distinct, il a ses propres règles, son propre ordre. Il repose sur la raison. Il y a des lois internes à la politique. Il vise un but qui n'est pas celui du pouvoir religieux. Mais en même temps, on gouverne des hommes. Et quand on gouverne des hommes, eh bien, c'est important de s'inspirer d'une vision de l'homme et de la société qui soit au minimum compatible avec le christianisme, en tout cas avec la nature spirituelle de l'homme. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, cette distinction des ordres, elle n'a jamais, 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 dans un contexte chrétien, été vécue comme une complète indépendance. Et c'est avec la Révolution française où là, on a voulu émanciper. Donc l'émancipation du politique par rapport au religieux, c'est vraiment une soustraction totale, c'est-à-dire que là, on veut, c'est le principe de Seyès, de la souveraineté nationale, désormais, c'est la souveraineté, elle est plus en Dieu, elle est dans la nation, et la nation devient un projet, un corps qui s'invente, et sans aucune référence à une loi qui nous précède, qui nous transcende. Et voilà que c'est un processus d'affranchissement. Et d'ailleurs, la Révolution, à ce moment-là, ne se veut pas comme uniquement un processus qui dure entre 1789 et 1799, mais c'est un processus qui est appelé à se déployer dans le temps. Voilà. Et ça va donner, tout ça va donner ensuite, et je termine juste là-dessus, le mot de laïcité qui malheureusement correspondra pas du tout à cette saine laïcité dont on parlait, qui va apparaître à la fin du 19e. Et donc, il faudra tout le travail de l'Église au 20e siècle pour faire la part des choses et pour dire oui, il peut avoir une saine laïcité, mais elle n'a rien à voir avec la laïcité à la française qui, en fait, confine au laïcisme.
Voilà. Très bien, ces termes sont mis à leur place. Dans tout ce que vous avez évoqué, on voit tout ce qui est arrivé aux écoles, aux congrégations, etc. On y reviendra à chaque fois que dans notre entretien, la référence historique pourra nous permettre de mieux comprendre. Diane de Bourguédon, votre essai « Les indésirables, prolophobie chez Fayard », c'est un coup de gueule, vraiment. Hein. Vous dites tout haut ce que beaucoup de Français pensent tout bas, ou ne s'autorisent plus à penser, ou ne pensent plus, parce que voilà, y a des ruptures aussi de ce côté-là. Vous vous fondez sur de tristes expériences très récentes, hein, vous évoquez les manifestations d'agriculteurs avec les forces de police en face de nos agriculteurs. On a vu des scènes qui sont surréalistes, en fait. Hein, ça, vous les évoquez très très bien. Et puis ces agriculteurs malmenés jusqu'au suicide par un État qui les méprise. Vous évoquez des verdicts contradictoires prononcés par la justice qui illustrent ce vers de La Fontaine en 1678 dans Les animaux malades de la peste. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Aujourd'hui, Diane de Bourguédon, qui sont les puissants? Qui sont les misérables? Donnez-nous un petit peu ce planter le décor.
Oui, alors c'est vrai que cette scission aujourd'hui, cette fracturation de la société française est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et on pourra l'articuler avec la notion de bien commun, puisque où se trouve aujourd'hui le bien commun quand on a des fragments de la population qui ne se comprennent plus, qui ne se parlent plus et qui ont des objectifs et des orientations complètement différents. En fait, aujourd'hui, on a l'impression, je recours beaucoup au vocable les élites, mais ce mot est un peu confus et puis peut donner un petit peu approximatif. Je le conçois pour ma part comme un ensemble assez vaste qu'on pourrait également appeler la bourgeoisie, qui correspond en fait aux populations diplômées qui habitent les grandes métropoles et qui sont des populations urbaines et cosmopolites. Donc elles sont très tournées vers le monde entier qui leur paraît offrir des sources d'opportunités bien plus intéressantes que la France éternelle. Et donc ces personnes sont principalement, on les retrouve dans beaucoup de milieux sociaux, de milieux professionnels différents. On peut les retrouver aussi bien évidemment dans les médias, la politique, tout le milieu intellectuel des universitaires et de la recherche, mais également, et ça je tiens aussi à le dire, toute la bourgeoisie d'affaires, hein, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans les grandes entreprises. Et en fait, ces personnes-là n'ont pas forcément au fond les mêmes convictions politiques, mais leurs actions et se traduisent de la même manière par un mépris et un oubli du peuple français historique qui est complètement marginalisé et abandonné. Donc aujourd'hui, les dominants, eh bien, ce sont les gagnants de la mondialisation, donc c'est ces élites dont je parle, et les perdants, c'est tous les Français des couches moyennes et populaires qu'on a refoulés en périphérie. Alors là, évidemment, je m'appuie sur les travaux de Christophe Guillou, qui a vraiment bien mis en évidence ce qu'il appelle métropolia et périphéria. Donc on a les gagnants de la mondialisation qui habitent dans les grandes métropoles, et puis les perdants de la mondialisation qui sont dans un état de déréliction à la fois économique, mais également sociale, et même encore plus loin, je dirais, métaphysique.
Diane de Bourguédon, vous êtes vous-même consultante en stratégie et en communication. Vous contribuez régulièrement à Figaro Vox et au JDD. Vous pourriez faire partie de cette élite méprisante. Aujourd'hui, vous écrivez sur la prolophobie. Vous, Diane de Bourguédon, écrivez-vous en tant que avec un esprit chevaleresque ou parce que vous vous sentez, vous, rejeté au même titre que les classes populaires périphériques?
Alors, je veux pas me targuer de la première option, mais effectivement, je ne subis
c'est
pas
nous qui
directement.
Allons le dire, alors.
Je ne subis pas directement le rejet moi-même, mais en vivant, je dirais moi-même au cœur de la matrice, j'étais assez bien placée pour observer les phénomènes, et moi-même j'ai pu m'adonner forcément à un moment de ma vie à des formes de peut-être de snobisme, et ça je pense que ça peut arriver. Exactement. C'est un snobisme. Comme j'aime bien m'intéresser aux racines des mots que traverse la France, il m'est apparu que celui-ci, cette sécession entre les élites, la bourgeoisie et le peuple français, était un point absolument fondamental. Et il m'apparaît que rien de bon ne pourra advenir à notre pays s'il n'y a pas de nouveau un sentiment de cohésion, de solidarité, en tout cas entre les différentes couches sociales de la population française. On ne pourra pas arriver à quelque chose en tout cas à redresser la France, ça me paraît impossible. Donc quand ce sujet m'est apparu comme absolument majeur, c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de prendre la parole en fait pour mettre le doigt dessus et peut-être révéler d'une manière assez objective ce que je peux observer dans la vie de tous les jours.
Et la laïcité, au cœur de cette question-là, où la situez-vous ? Qu'est-ce que cet ingrédient, si l'on peut dire ? Est-ce que c'est un ingrédient poison qui vient encore plus nous diviser ? Donnez-nous votre point de vue sur cette question, Diane de Bourguedon.
Moi, j'ai l'impression nous sommes dans un vaste mouvement qui a commencé depuis la Révolution française, mais qui a connu une accélération absolument formidable en mai 68, qui est un mouvement de dépossession de tout le monde, d'ailleurs, de ses racines et de tout ce qui peut être conçu comme une entrave à l'épanouissement de la liberté individuelle. Et en fait, je vois les choses de deux manières. À la fois, je rentre vraiment dans le politique. La gauche et l'extrême gauche utilisent la laïcité comme un moyen très agressif contre le catholicisme. C'est vraiment c'est vu comme une façon, à mon avis, la façon dont je ressens, c'est une façon de porter un coup fatal en fait au christianisme, sachant que les autres religions ne font pas l'objet de la même véhémence de leur part. Mais, et ça s'est passé exactement comme ça en mai 68, le marché, le capitalisme, constitue une alliance objective en fait avec cette laïcité, puisque le capitalisme, ce qui l'intéresse lui, c'est de effectivement laisser l'individu délié de tout enracinement, de toute matrice et de tout corpus pour le livrer. Nu et sans défense au grand consumérisme en fait. Et il y a une sorte d'alliance objective, les uns par volonté de saper tout reste de christianisme et les autres par volonté du déploiement libre du consumérisme. Donc évidemment quand on livre des individus sans le moindre lien, sans le moindre attache, des individus qui flottent dans une espèce de grand vide, c'est le meilleur moyen de les laisser en proie en fait à la consommation.
Très intéressant, vous lancez beaucoup de pistes que nous allons explorer tout au long de l'heure qui nous reste. Je voudrais indiquer à nos auditeurs et vous indiquer peut-être à vous-même un outil que je trouve extrêmement intéressant qui m'a été révélé par Samy Biasoni lorsqu'il était venu à ce même micro nous parler de son livre Encyclopédie des euphémismes contemporains que vraiment je vous recommande chaleureusement pour comprendre aussi tous les travers et l'influence du wokisme dont vous parlez aussi beaucoup, Diane de Bourguedon. Cet outil s'appelle Google Ngrams, Ngrams. Allez voir, chers amis, sur les questions qui vous intéressent, l'apparition des mots et le nombre d'occurrences au fil du temps. Vous connaissez Bénédicte Bernard ? Non ? Alors, je me suis amusée à le faire pour prolophobie, parce que je me suis dit, voilà, un néologisme inventé par Diane. Désolée, Diane. En 2007 déjà, prolophobie apparaît, mais peu. Il y a un pic en 2013. Donc, vous voyez, 2013, comme ça a bouillonné, hein, ça a bouillonné. Il retombe ensuite. Et nul doute qu'il va remonter grâce à votre livre Les indésirables prolophobies. Mais c'est intéressant de voir ce qui traverse la société à travers les mots que l'on peut trouver. Et quant à laïcité, laïcité apparaît un peu avant 1880, ça ne vous étonnera pas Benoît Dumoulin, parce que vous dites 1871 dans le Littré, et puis avec un pic en 2005, ensuite une baisse, et ça repart en 2013-2014. Vraiment intéressant, hein. Et voilà. Et ensuite, il vivote. Très intéressant de voir ça. Je vous donne cet outil. C'est une petite clé pour peut-être des sujets autres qui vous intéressent, chers auditeurs. Benoît Dumoulin, je voudrais revenir au début de votre livre. Vous évoquez Ponce Pilate et à l'appui de Hans Kelsen, juriste théoricien du droit d'origine tchèque, vous introduisez dans le récit du jugement de Jésus, de la passion, la notion de démocratie. Et lorsque Ponce Pilate s'en remet au peuple, si j'ai bien compris, bien ennuyé avec cette question, cette histoire de roi des Juifs, la peur d'une émeute à la veille de Pâques, on est dans notre actualité de Semaine Sainte, Ponce Pilate délègue au peuple le choix. Alors, voudrez-vous que je vous remette Barabbas ou cet homme? Il se dit, allez, il essaye un tout petit peu de les manipuler, ça ne marche pas, Barabbas, Barabbas. Bon, bah, il s'en lave les mains parce que au fond, il n'y a pas de vérité. Et là, enfin, peut-être parce que j'ai certaines lunettes, Benoît Dumoulin, mais je vois là une sévère critique de la démocratie.
Alors, oui, ce passage est très intéressant. C'est effectivement la manière dont Kelsen, grand juriste autrichien, analyse le dialogue entre le Christ et Pilate, hein, qu'on a eu hier pour ceux qui étaient à la messe des Rameaux. On a eu la version de saint Matthieu et là, il analyse celle de saint Jean qu'on aura vendredi saint. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait Pilate le premier démocrate des temps modernes. Donc, ce n'est pas une critique de la démocratie, c'est une critique de la démocratie moderne, c'est-à-dire la démocratie qui refuse de se fonder sur des principes qui la précèdent. La démocratie, on dirait aujourd'hui la démocratie uniquement procédurale, qui part du principe que, comme le disait un certain député à l'Assemblée nationale, vous avez politiquement tort parce que vous êtes numériquement minoritaire. Et donc c'est ça en fait, le problème c'est on remplace la recherche de la vérité comme fondement du bien commun par l'addition arithmétique du suffrage, en partant du principe que finalement, eh bien, quid est veritas, c'est le dialogue, qu'est-ce que la vérité entre puis Pilate, en fait, c'est trop compliqué, et puis il essaye, cette histoire du Christ, il aimerait bien s'en débarrasser, donc qu'est-ce que la vérité? C'est trop compliqué, c'est un fardeau trop lourd à porter pour lui, mieux vaut finalement s'en remettre au peuple, c'est une manière de se déresponsabiliser, en disant, c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est le peuple, et donc on compte, oui, hop, ils veulent Barabbas, et donc je m'en lave les mains. C'est ça, en fait, qui est mis en cause. En tant que volonté de se soustraire à la recherche de la vérité et fonder la démocratie uniquement sur une question procédurale, l'addition arithmétique des suffrages.
Bénédicte Bernard, vous citez Jaurès qui dit « Démocratie et laïcité sont deux termes identiques ». Que veut-il dire? Et donnez-nous des clés pour justement les jeunes qui sont gavés de ces mots mais mal définis. Donnez-nous des clés pour éclairer, donner des clés aux éducateurs. Hein, d'abord, que veut dire Jaurès lorsqu'il dit « démocratie et laïcité sont deux termes identiques » ?
Alors, il allie en fait les bases de la démocratie à une base, enfin, à surtout à un droit sans Dieu. En fait, la difficulté qu'on a là, c'est qu'aujourd'hui, je vois que on parle de laïcité en parlant aussi de laïcisme sous le même vocable. Et c'est toute la difficulté, parce que la laïcité en soi est une chose bonne. Et c'est vraiment un équilibre qu'on a réussi à trouver. Maintenant, le laïcisme, c'est justement couper le droit de sa racine, qu'a évoqué Benoît tout à l'heure. En fait, depuis les Lumières, depuis la Révolution, mais ça a commencé en réalité bien avant. C'est pour ça que la Révolution, c'est un moment de rupture qui bascule parce qu'il y a une cléricalisation de la société antérieure et qui est aussi, on avait besoin de sortir de ça.
Donc, je vous coupe juste un instant, je vous propose à tous les trois qu'à partir de maintenant, on dise laïcité lorsqu'il s'agit de laïcité et laïcisme lorsqu'on veut, vous voyez, pour que ça soit bien clair. Oui. Et justement, comme clé d'éducation.
Alors, laïcisme, en fait, c'est le terme qu'on emploie couramment dans un régime de séparation tel que le nôtre. En fait, quand on parle de laïcité, souvent, c'est quand même laïcisme qu'on doit comprendre.
Mais oui.
Voilà. Alors, la laïcité, c'est cet équilibre entre le temporel et le spirituel, entre le politique et l'Église, entre l'Église et l'État, hein, cet équilibre qu'on peut trouver. Ce qui s'est joué, en fait, au moment de la Révolution et avec l'esprit des Lumières, quand on a eu un basculement qu'a décrit Benoît tout à l'heure, c'est l'absolutisation de la liberté. Et c'est l'absolutisation de l'intérêt général et de la volonté du nombre. C'est ce qui vient d'être évoqué. C'est qu'en réalité, à partir du moment où une loi est votée en démocratie, selon la démocratie procédurale de John Rawls qui vient d'être décrite, la loi est juste parce que c'est la loi. Pas parce qu'elle est fondée sur un ordre qui est pré-juridique, méta-juridique, qui a toujours été en France jusqu'à la Révolution le socle commun. Et aujourd'hui, si on a une société qui est fracturée, où on a une telle fracture entre les élites et le peuple, qu'est-ce qui se passe ? Ben en fait, on n'a pas de socle commun et on va vers l'intérêt particulier et l'absolutisation des libertés personnelles. Et on peut aller très loin dans la description et dans le phénomène de rupture. Et comme vous dites, on n'a pas moyen de récupérer un socle commun si on n'a pas une vision commune de la société et de l'homme au fond. Donc c'est des questions profondes, c'est des questions philosophiques et pour moi aussi métaphysiques qu'il y a derrière.
À l'absolutisation de l'état de droit. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est comme si c'était un texte sacré, l'état de droit, les droits de l'homme, on appelle ça les droits humains maintenant. Mm-hmm. Et quand on confronte cela à la réalité vécue, à la situation, notamment dans le domaine juridique, on est face en fait à une équation impossible à résoudre, puisque on voit bien que c'est souvent à la défaveur de beaucoup de citoyens que ce droit est appliqué. Mais c'est l'état de droit et il est complètement absolutisé.
C'est devenu un droit divin, en fait. De droit, c'est vraiment devenu... En fait, ça a remplacé le droit naturel, sauf que ça n'en est pas. Donc c'est un petit problème, d'autant que l'état de droit, en fait, exalte les droits de l'individu au détriment non seulement des droits de la personne, c'est pas pareil, la personne et l'individu, et des droits du peuple. Ah, donc là, ça a conduit un certain nombre de gouvernements à ne pas pouvoir faire passer des lois qui sont pourtant votées majoritairement à l'Assemblée.
Oui, Bénédicte Bernard.
Non, je voulais juste intervenir. On a eu une émission sur laquelle j'intervenais la semaine dernière, justement sur cette question du droit naturel. Très intéressante, une discussion qu'on a eue à plusieurs. Parce qu'effectivement, en fait, si on n'a pas ce socle, en fait, on tombe dans quoi ? On tombe dans le positivisme. Et ce que vous venez de décrire, c'est exactement la position de Kelsen, avec la Constitution comme norme fondamentale et d'où découlent tous les autres textes. Mais cette Constitution, si elle est ouverte à aucune transcendance, en fait, elle est l'absolutisation du système. Et donc, ça provoque aussi une prolifération des lois, puisque à chaque fois, s'il n'y a de juste que ce que dit la loi, il faut un maximum de lois. Et c'est ce qu'on voit actuellement.
Je vous propose une petite pause musicale.
Resucitó del que los muertos. la comunión de los santos y el perdón de los pecados.
Resurrección de la carne, día a día perdurable.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers amis du Libre Journal de la Transmission, Valérie Daubigny au micro, qui a la joie aujourd'hui de recevoir Bénédicte Bernard, directrice des éditions Bollène, Benoît Dumoulin pour son livre aux éditions Bollène, Quelle laïcité pour demain, et Diane de Bourguedon pour son essai très fort, Les Indésirables, Prolophobie, paru chez Fayard, lui aussi de manière très récente. Merci à tous les trois pour déjà, on est plus que dans le décor planté, on est déjà entré dans des notions qui, j'espère, sont des outils pour vous, chers auditeurs. Il ne s'agit pas de faire une émission intello, je voudrais une émission qui vous donne des armes et surtout qui vous donne l'envie de vous tenir droit et de bouger et d'agir, comme le fait Ictus. Je n'ai pas donné le lien pour retrouver toutes les activités d'Ictus dont nous a parlé Benoît Dumoulin en introduction. Ictus.fr, ICHTUS.fr. Vous trouverez tout l'éventail des propositions de formation, de rencontres, de réseaux aussi que propose la rue des Renaudes. Alors, nous avons déjà abordé des notions en passant, notions que j'aimerais que nous approfondissions, notamment celle des deux glaives. C'est le terme communément admis pour désigner les deux pouvoirs temporels et spirituels. Vous en avez déjà parlé, Benoît Dumoulin. Et vous dites dans votre essai que ces deux pouvoirs ne peuvent être assurés par les mêmes personnes. Pourquoi ?
Alors, ça, c'est vrai que c'est une question qui remonte en fait au Christ, même si elle s'est posée avec une plus grande acuité au Moyen-Âge. En fait, la question est le refus du mélange des genres, on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire que, imaginez que, par exemple, ça peut arriver dans... Là, je quitte le Moyen-Âge, je prends un exemple contemporain pour que tout le monde comprenne. Vous travaillez dans une entreprise et le supérieur de cette entreprise est un prêtre. Ça peut arriver, hein. Et donc, le prêtre vous licencie parce que y a un contentieux entre vous et lui. Est-ce que vous oserez vous confesser à lui alors que vous avez une relation hiérarchique avec lui? D'ailleurs, l'Église déconseille ça pour distinguer le fort interne et le fort externe. Et là, en fait, c'est pareil. L'idée, c'est qu'il ne faut pas de mélange des genres. Donc, celui qui a le pouvoir temporel et qui peut contraindre, eh bien, il ne faut pas que ce soit le même que celui qui a le pouvoir spirituel, parce qu'il peut très bien être tenté d'utiliser la contrainte temporelle au service d'une fin spirituelle. Et d'ailleurs, c'est arrivé au Moyen-Âge. On a un exemple. Vous savez, au moment du confinement, on a dit « Ah, mais c'est la première fois qu'il n'y aura plus de messe en 2020 et tout. » Mais non, en fait, c'était la deuxième, puisque en 1200, le pape Innocent III a jeté l'interdit sur le royaume de France. Alors, jeter l'interdit, ça veut dire interdiction pour tout prêtre de célébrer les sacrements dans le royaume. Donc, vous voyez, c'est finalement prendre en otage la population française qui, à cette époque, était catholique à 99% l'empêcher d'avoir les sacrements pour faire plier le roi, et le roi en l'occurrence, Philippe Auguste, qui s'était séparé de son épouse, et en fait l'idée c'était qu'il la reprenne, en tout cas ou alors qu'il se lance dans une procédure de nullité. Donc l'idée c'était de dire que, eh bien, on voit pas pourquoi les grands seraient soumis à des lois différentes, les lois du mariage, l'indissolubilité du mariage, ça concerne les grands et les petits. Bon, mais le problème dans ce genre de cas de figure, alors c'est un cas que j'évoque, c'est que le pape utilise un pouvoir qui atteint le temporel et qui permet de déstabiliser un royaume. On a eu la même chose avec le Saint-Empire romain germanique. On avait des évêques qui étaient à la fois des seigneurs. Hein, vous avez la principauté de Coblence, de Mayence. Donc en fait, ils sont à la tête d'une hiérarchie politique. Ils ont des vassaux, ils ont des terres, et en même temps, eh bien, c'est eux qui sont investis par le pape dans le cadre de leur ministère sacerdotal, enfin, épiscopal en l'occurrence. Donc en fait, ça pose un problème de mélange des genres. Alors en fait, vous allez me dire, c'est pareil pour les états pontificaux. Le principe même des états pontificaux, en fait, était temporaire. C'était pour préserver la liberté de l'Église qu'on voulait que le pape soit soustrait à un État qui puisse faire pression, en l'occurrence le Saint-Empire. Mais en fait, avec le temps, et le cardinal Ratzinger l'a reconnu, il est bien mieux que l'Église n'ait plus de pouvoir temporel et c'est plus conforme à sa mission. Elle a un pouvoir qui s'adresse directement à la conscience humaine. Et elle met face à ses responsabilités, tout simplement.
Bénédicte Bernard, dans votre thèse doctorale publiée à l'Harmattan, Laïcité française et sécularité chrétienne, vous accordez beaucoup de temps à cette question des deux glaives et à cet équilibre. Qu'ajouteriez-vous à ce que Benoît Dumoulin vient de nous dire ?
Alors effectivement, moi je la referais repartir quand même de la bulle Unam Sanctam de 1303 de Boniface VIII, parce que c'est lui qui théorise en fait cette théorie des deux glaives, dans lequel, c'est parce que c'est quand même des doctrines qui se sont développées au sein des canonistes de l'Église, d'abord. Et ensuite, parce qu'on était dans un monde chrétien, donc qui était suivi après.
Naturellement, c'est venu
naturellement
de là,
chrétien. Voilà. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? On avait une conception dans laquelle, en fait, le pouvoir, en fait, c'était une mauvaise compréhension aussi de la cité terrestre et de la cité céleste de Saint-Augustin, qui a été reprise et absolutisée, dans le sens que chacun, État et Église, avait un pouvoir indirect dans la sphère de l'autre. Alors, il y a eu toute une lente purification qui s'est faite au sein de l'Église. Et d'ailleurs, on pourra se poser la question de l'islam qui n'a pas eu cette même évolution pour d'autres raisons. Mais en réalité, ce qui s'est passé dans l'Église, c'est qu'il y a eu tout un processus de maturité, on va dire, pour arriver au Concile Vatican II. Alors, je fais un grand saut dans le temps et je vous épargner toutes les étapes intermédiaires. Mais on est arrivé à une conception beaucoup plus juste de cette autonomie du temporel par rapport au spirituel. Et je dis bien que c'est une autonomie relative et non pas absolue, parce qu'elle est relative sur le plan moral. Même si, effectivement, il y a une autonomie du temporel, le temporel ne peut pas se dégager d'un ordre qui lui est étranger, qui est la sphère morale, philosophique, religieuse, etc., et avec laquelle il doit coopérer. Alors, ça ne veut pas forcément dire que l'État est confessionnel ou catholique. Cette conception a aussi été abandonnée au moment du Concile. Mais je voudrais souligner quand même l'apport très, très important du Concile Vatican II sur cette question, puisqu'en fait, le Concile va venir redéfinir... Alors, déjà, l'Église, on a une ecclésiologie nouvelle qui fait qu'on conçoit le rôle de l'Église dans la société différemment. Et on l'explique différemment. Et donc, la relation avec l'État va aussi se transformer et se purifier. C'est à partir du Concile, on ne parle plus d'État confessionnel comme l'État de thèse dont on parlait avant, mais la doctrine canonique du droit public ecclésiastique de l'époque, en fait, va être passée sous silence. Elle ne va pas être reprise par le Concile, qui, lui, ne va plus parler de pouvoir spirituel, mais d'autorité spirituelle. Et donc, on ne se situe plus sur on n'a plus de conflit possible entre deux pouvoirs avec des pouvoirs indirects réciproques. On va se situer sur un pouvoir temporel et sur une autorité spirituelle qui lui est au-dessus. Je n'ai pas dit étrangère, mais qui lui est au-dessus, donc dans une autre sphère. Donc, il n'y a plus de heurts possibles. Théorique.
C'est ce que j'allais dire.
Oui, alors bien sûr, la pratique est un peu différente.
L'application de ce tournant qui se révélait sans doute nécessaire, son application n'a-t-elle pas été une plante savonneuse qui nous conduit là où nous sommes maintenant ?
Alors non. Je pense qu'on n'a pas encore exploité cette notion de laïcité qu'on a justement dans le Concile, qui explique bien qu'en réalité, chacun son rôle. Mais à condition effectivement que du côté de l'État, il n'y ait pas non plus un laïcisme borné, pour dire les choses rapidement. Mais ça veut dire aussi que du point de vue de l'Église, il ne peut pas non plus y avoir de cléricalisme comme on a connu auparavant. Et donc, il y a une purification à faire des deux côtés et qui s'est opérée dans l'Église. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu une lente évolution pour arriver à l'acceptation de la laïcité au sein de l'Église. Il y a eu toute une évolution. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Pourquoi ? Parce qu'on avait une conception très humaine aussi de ce rapport entre l'Église et l'État. Et une conception un peu trop humaine aussi de l'Église et de son rôle dans la société. Ces choses ont évolué, elles se sont mieux expliquées, elles ont été approfondies théologiquement. On a redécouvert aussi le rôle des laïcs, et leur rôle si important dans la sanctification des réalités temporelles que vous évoquiez, Benoît. En fait, on redécouvre, il y a un potentiel énorme qui se trouve là dans le Concile et qu'on n'a, à mon avis, pas encore suffisamment exploité pour remettre l'Église à sa juste place d'autorité spirituelle. Et vous savez que c'est quand même prévu dans le droit de l'Église, que je connais pour l'avoir étudié. On a quand même un canon qui nous explique que l'Église est tout à fait autorisée à parler en matière sociale à partir du moment où la question touche le salut des âmes et le respect de la dignité humaine, etc. Donc, pas uniquement sur des questions magistérielles, mais aussi sur des questions de l'homme. Et là, vous avez évoqué le wokisme, etc. Elle a beaucoup de choses à dire sur ces questions. Et elle est autorisée à le faire. Alors, cette conception de la laïcité, elle n'a pas été acceptée facilement. Et on comprend aussi le contexte historique. Elle est née dans un contexte de Révolution française, d'esprit des Lumières, de un rationalisme, un droit naturel rationaliste qui s'instaure, etc. Et on a quand même eu un régicide, au passage, qui a traumatisé aussi les chrétiens. Donc les chrétiens sont sortis un peu de cette phase de cléricalisation à coup de pied, on va dire, et de manière violente. Donc l'acceptation des libertés modernes, des nouvelles formes politiques, etc., a été lente. Et comme la laïcité est née avec la République, qui allait à l'encontre de la position politique de beaucoup de chrétiens aussi monarchistes, eh bien, en fait, cette notion de laïcité a été assimilée au régime politique et donc a eu du mal aussi à s'instaurer, alors en France plus particulièrement, à cause de notre histoire, mais au sein de l'Église aussi, elle a mis du temps à faire son chemin. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a toutes les clés pour comprendre c'est une relation équilibrée.
Et peut-être qu'on peut prendre un exemple tout simple pour illustrer ce que dit Bénédicte.
Benoît Dumoulin.
C'est que, en fait, par exemple, jusqu'au Concile, quand un catholique intervenait sur certaines questions politiques dans la société, et des questions politiques qui ont une incidence sur
la vie, la mort, l'amour,
oui,
par exemple.
Oui, voilà, enfin, les questions, on va dire, les questions morales, en gros, pour faire court, eh bien, il devait avoir un mandat. Il devait avoir un mandat ecclésial, alors que, en fait, vous parliez d'Ictus tout à l'heure, avant le Concile, quelqu'un comme Jean Gousset avait déjà dit que, en fait, les laïcs, quand ils sont dans leur domaine, ils n'ont pas besoin de mandat, et ce n'est pas du tout une façon de rejeter la hiérarchie, c'est simplement que chacun est dans son ordre, et que les laïcs, leur but, c'est la sanctification de l'ordre temporel, et donc il y a cette autonomie-là. Ils sont assez grands pour, en toute autonomie, construire cet ordre temporel en s'inspirant d'une vision chrétienne de l'homme et de la société telle que l'Église l'enseigne. Donc, voilà, et c'est vrai que, alors ça c'était un cas de figure. L'autre cas de figure qui a pu arriver au 19e, c'est qui a pu alimenter l'anticléricalisme, même si c'est pas du tout la seule cause, c'est le prêtre ou l'évêque qui adoube un candidat aux élections. Ça c'est aussi d'une histoire, quoi.
J'ai envie d'évoquer l'actualité très récente de la visite du pape Léon XIV à Monaco. Monaco, l'un des rares pays européens où le catholicisme est religion d'État. On peut comparer dans une certaine mesure, bien sûr, mais il est bon que nos auditeurs sachent que le prince Albert a récemment refusé une proposition de légalisation de l'avortement, invoquant le rôle prédominant du catholicisme dans la société monégasque.
Monaco dispose d'une législation spécifique qui intègre les soins palliatifs et loin de légiférer sur l'euthanasie comme nous le faisons nous. Voilà, je pense que c'est intéressant qu'on ait aussi ça en toile de fond. Et puis, je trouve qu'au-delà de tout cela, bien, on a vu des images, on a vu une famille qui recevait le pape dans un pays où 90% des personnes se disent catholiques, même si tous ne sont pas pratiquants.
Non, mais c'est intéressant.
Ça fait du bien. Enfin,
ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le statut d'État confessionnel, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas le paradigme de l'Église, eh bien, quand il est vécu pacifiquement parce que la population adhère à ce statut confessionnel et que la liberté religieuse peut exister pour d'autres cultes, c'est quelque chose qui est tout à fait positif parce que, vous l'avez dit, le prince Albert s'est appuyé sur son statut d'État confessionnel pour dire, bah non, chez nous, ça ne sera pas possible la légalisation de l'avortement.
Diane de Bourguedon, dans votre essai « Les indésirables, prolophobie chez Fayard », dans cette très bonne collection qui donne des petits coups de poing, hein, c'en est vraiment un, vous nous parlez de la disparition de la famille traditionnelle, des conséquences sur les classes populaires. Je pense qu'on a là aussi pas mal de fils à tirer. Qu'est-ce qui vous apparaît lorsque... Sous ce constat, qu'est-ce qui vous apparaît de plus fort, de plus poignant et de plus chaud ?
En fait, je relate d'ailleurs dans mon livre un épisode qui m'est arrivé. J'ai eu l'occasion de rencontrer une dame qui enseigne histoire-géographie dans une des villes les plus pauvres de France, en l'occurrence dans le Nord-Pas-de-Calais. Et comme tout un chacun, je me faisais une certaine idée de la société dans cette région extrêmement pauvre. Donc je me figurais bien les problèmes de chômage, d'absence de perspective, de faible niveau d'instruction. Mais en parlant avec elle, elle me raconte une anecdote. Elle me dit nous ne rencontrons jamais les pères, quand les enfants, les élèves ont des difficultés, on a affaire qu'aux mères de famille. Et je lui demande mais pourquoi ? Elle m'explique parce que comme les mères en fait ont plusieurs enfants de pères différents, on ne sait pas vraiment qui est le père d'un tel ou tel. Donc le plus simple, quand on veut parler aux parents de tel enfant, on fait appel à la mère parce qu'elle, on sait bien que c'est la mère. Et je prends conscience en fait, quand elle me raconte cette anecdote, finalement du niveau de, je parlais tout à l'heure de déréliction, mais au-delà des problèmes économiques et sociaux, des problèmes de chômage et puis malheureusement souvent dans la foulée, les problèmes d'addiction, de tabagisme, d'alcool, etc. Il n'y a pas que ça en fait qui est détruit. Et la bourgeoisie, j'en parlais tout à l'heure au moment de mai 68 et puis l'accompagnement par la globalisation économique a mis un grand coup de balai en fait sur tous les cadres de la société. Donc c'est très large, hein, parce que ça va de la nation à la famille, en passant par la notion de travail, hein, qui était autrefois pourvoyeuse de dignité. Donc on a mis un grand coup de balai là-dessus et on a érigé un nouveau modèle de société dans lequel l'hédonisme consumériste serait l'horizon ultime du bonheur et l'épanouissement de tous les individus. Mais en faisant cela, les élites, alors je pense sincèrement qu'elles ne l'ont pas fait dans un but de mal faire, hein. Je pense qu'elles étaient intimement persuadées.
C'était l'objet d'une de mes questions, voilà. C'est ça, c'est très intéressant, dites-nous.
Je ne pense pas que les personnes agissent en permanence dans le but de mal faire et qu'il y aurait des complots pour tout détruire. Il y a eu la conviction à un moment donné que les errements du passé étaient dus à un certain nombre de choses, et souvent la religion a été attaquée à ce titre-là, et donc elles ont pensé que on était passé dans la post-histoire, dans la post-politique, on pouvait tourner la page avec évidemment les guerres abominables et les totalitarismes qu'on a connus, et que finalement cette société purement contractuelle, cette société qui ne vise que l'épanouissement du libre marché, allait être une société apaisée dans laquelle tous les problèmes allaient disparaître. Mmh. Et donc elle a amené cette révolution à marche forcée en ne se rendant pas compte qu'elle abandonnait finalement une énorme partie de la population à une immense insécurité. pas seulement matériel, mais également spirituel et métaphysique. Mmh. Et aujourd'hui, je pense qu'un certain nombre de Français ne savent plus à quoi se raccrocher. On n'arrête pas de leur parler la société en mouvance, mais peut-être qu'ils auraient envie d'avoir des balises et des éléments et des phares peut-être qui les aident à se repérer dans la nuit et dans le brouillard. Et aujourd'hui, on ne les aide pas à les trouver.
Non, et puis vous le dites dans votre essai, chaque génération est moins instruite que la précédente. Donc là-dedans, des idéologies peuvent avancer comme dans du beurre, si je puis dire, et des idéologies, on y vient, comme l'islam, qui est plus une idéologie qu'une religion. C'est moi qui le dis, vous me direz votre avis là-dessus. Mais voilà, donc on a un contexte où toutes ces notions-là avancent sur de la friche, et on a passé au napalm tout ce qui pouvait relier. Bah, puisqu'on est sur cette question peut-être de culture chrétienne aussi, j'ai trouvé très intéressant le point relevé par Mathieu Boccoté dans la préface, une préface drôlement laudative, hein, Benoît Dumoulin. C'est votre ami Mathieu Boccoté.
Effectivement, et je suis très touché de sa préface.
Elle est belle, cette préface.
Parce que non seulement il se livre,
oui.
À mon égard, ses propos, en tout cas, me vont droit au cœur.
Et il dit de très belles choses, il ouvre des voies aussi, donc c'est très intéressant de l'avoir en tête lorsqu'on entre dans votre livre. Parce qu'il a ouvert des voies de réflexion. Et notamment, il fait une allusion au livre « La messe n'est pas dite » d'Éric Zemmour, qui nous a aussi beaucoup fait réfléchir. Est-ce qu'il faut défendre coûte que coûte la tradition, l'enracinement culturel chrétien, et par rapport à la transmission de la foi, une France chrétienne, je pense que ça c'est assez intéressant. C'est sous-jacent dans votre essai, Diane de Bourguedon. Que diriez-vous les uns ou les autres de ce sujet-là? Où est la limite? Est-ce qu'il est intelligent d'opposer? Est-ce qu'il n'est pas plus intelligent de réunir? Je ne sais pas.
Alors, déjà, ça ne s'oppose pas. Hein, et puis, là encore, chacun son rôle. C'est tout à fait... il est urgent que la foi... soit transmise dans notre pays, et il est aussi urgent d'affirmer ses racines chrétiennes. Mais ce à quoi fait allusion Mathieu Boccoté, et je l'évoque brièvement à la fin de mon livre, c'est plutôt toute cette problématique de l'inscription des racines chrétiennes dans la Constitution, qui en soi est une très belle chose, mais attention, pour quel projet? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous, dans votre constitution et dans votre programme, vous dites que vous inscrivez les racines chrétiennes de la France dans la constitution, c'est, encore une fois, c'est très bien. C'est pas, même, il y a même des avantages juridiques, on pourra en parler, pour déjouer certaines jurisprudences. Mais pour quel projet? Et sur ce sujet, là, je saute de l'autre côté de l'Atlantique pour bien comprendre quel est le risque. Aujourd'hui, on a Donald Trump qui, alors on en pense qu'on en veut, mais il déclenche une guerre qui ne s'est pas terminée en Iran. Et on le voit dans le bureau ovale faire invoquer Dieu avec des pasteurs qui prient pour lui et qui prient sur lui d'ailleurs quand il est à son bureau. Il a évoqué la possibilité de consacrer l'Amérique à Dieu. Alors, à la fois, c'est très bien et on ne va pas se plaindre que la laïcité à l'américaine soit justement ouverte par rapport à la laïcité française, mais attention à ce que finalement on n'instrumentalise pas le catholicisme au profit d'une politique qui ne le serait pas, en tout cas ne le serait pas dans certains points, comme la recherche de la paix. Mmh. Et en fait, ce qui est valable à l'échelle de l'État, c'est valable aussi à l'échelle d'une personne. Imaginez, dans une entreprise, une personne qui s'affiche chrétienne et qui n'a aucun complexe à dire, bah voilà, moi je vais à la messe des cendres, elle revient, et c'est très bien, on va lui dire, mais voilà, enfin une personne qui n'a pas peur. Mais dans ce cas-là, il faut que derrière ça suive, il faut que le comportement soit exemplaire. En fait, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le christianisme, c'est pas que des racines. C'est une vision de l'homme, c'est quelque chose qui irrigue. En fait, c'est une lumière qui traverse de l'intérieur la société pour l'élever jusqu'à la contemplation de Dieu.
Bénédicte Bernard, que diriez-vous pour compléter ?
Alors, deux choses. Ouais. La première, puisque vous évoquiez Éric Zemmour et sa manière de concevoir une société chrétienne, c'est sûr que le christianisme imbibe la culture quand il est présent. Donc, c'est une composante de la culture. Mais attention, parce qu'on a déjà connu en France quand même des périodes dans lesquelles les dirigeants se sont servis, et je pense à Napoléon, qui s'est servi des catholiques pour faire l'unité du pays. Il n'était pas spécialement catholique, mais il a quand même créé un bureau. Il a voulu faire de l'Église, en fait, on est sur une conception très gallicane, mais on a voulu faire une Église de France, en France, avec un bureau des cultes, avec une administration de plus.
Des fonctionnaires.
Des fonctionnaires. Et pourquoi ? Parce que ça servait sa cause. Ça servait l'unité du pays pour une unité politique. Il ne faut pas oublier qu'avant la Révolution, quand même, je pense par exemple aux protestants ou aux jansénistes, un opposant à une personne qui n'était pas de religion catholique était aussi un opposant politique. Et on a vu les crises politiques que ça a pu provoquer derrière. Donc, en réalité, confondre le christianisme avec une raison politique, je crois qu'on fait fausse route. Dans cette conception, alors personnellement, moi, ça me fait un petit peu penser à Maurras quand même, une conception, une reprise de la culture chrétienne. Mais pourquoi ? Pour quel projet ? Effectivement, comme dit Benoît, c'est une autre question. Pour moi, la question de fond, elle n'est pas de faire un état confessionnel, parce que je ne crois pas personnellement, alors on peut avoir des opinions divergentes, mais c'est vrai que je ne crois pas à la force d'un état confessionnel, et encore moins aujourd'hui dans la situation historique dans laquelle on se trouve. Mais pas parce que je ne crois pas au christianisme ou à sa valeur efficace, mais parce que je pense que ce n'est pas le rôle de l'État et qu'on peut très bien... Et là, je vais rejoindre Diane sur cette question. En fait, je pense que, justement, parce qu'il y a une fracture au sein de la société, on a besoin de retrouver un socle commun que va aider à retrouver le christianisme, parce qu'on porte des valeurs. Mais, vous avez évoqué les musulmans tout à l'heure, on n'a pas la même conception de tout, mais on a beaucoup de valeurs communes sur lesquelles il faut arriver à reconstruire. Et c'est là où il y a un enjeu majeur. Parce que si on veut retrouver une cellule familiale qui porteuse, si on veut redonner le goût du travail, le goût du bien commun, réenthousiasmer, réenchanter la société pour que les gens aient le goût du travail, le goût de la famille, le goût du vivre ensemble, eh bien, il va falloir qu'on creuse très profond et qu'on aille aussi dialoguer et travailler pour qu'on on se retrouve sur des sujets communs.
Chers amis du Libre Journal de la Transmission sur Radio Courtoisie, vous entendez en ce moment Bénédicte Bernard, directrice des éditions Bolène, Benoît Dumoulin, Quelle laïcité pour demain aux éditions Bolène, et Diane de Bourguedon, Les Indésirables, Prolophobie chez Fayard. Je voudrais que, parce que le temps file, hein, je vous avais dit 1h30, c'est pas du tout un océan, mais absolument pas, et le temps file, j'aimerais que l'on revienne au texte. Que dit le texte sur la laïcité ? Je vais vous dire pourquoi. Très récemment, un colloque, une directrice d'établissement sous contrat, nous a dit... Quand je suis arrivée à la tête de l'établissement, la première chose que j'ai faite, alors que je ne suis pas juriste, c'est de faire un travail de juriste pour vraiment relire le contrat d'association, pour revoir exactement, définir exactement les prérogatives, jusqu'où l'on peut aller. Parce que par bouche à oreille, ce que l'on croit savoir, parfois on se met soi-même des barrières. Alors, procédons de la même manière, et je pense que ça peut être une clé d'ailleurs dans nos vies pour beaucoup, beaucoup de sujets, pas d'auto-limites, voilà. Que dit la loi sur la laïcité exactement, Benoît Dumoulin ?
Alors, déjà, première chose, la laïcité concerne l'État. Le terme laïcité lui-même n'est même pas cité dans la loi de séparation des Églises et de l'État, mais aujourd'hui il est dans la Constitution depuis 1946, donc c'est un principe constitutionnel. Et la laïcité de l'État, ça veut dire qu'en fait il est impossible juridiquement de financer un culte. C'est pareil aux États-Unis d'ailleurs. C'est l'article 2, l'État ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. C'est ce qui a mis fin au budget des cultes qui était voté chaque année. Alors, avec l'exception pour l'Alsace et la Moselle, et puis aussi certains départements d'outre-mer. Voilà, ça c'est la première disposition. L'idée aussi, c'est que les agents de l'État, des collectivités locales, doivent avoir une neutralité absolue. Ce qui, de l'autre côté de l'Atlantique, choque souvent. Neutralité absolue, c'est-à-dire que, eh bien, par exemple, quand vous incarnez l'État, vous êtes un policier, vous n'êtes pas comme dans certains pays anglo-saxons où le policier, il peut avoir un turban sikh. Surtout dans les fonctions de régaliennes, il y a, mais pas uniquement, mais il y a une neutralité absolue, aucun signe visible. En revanche, je fais appel à l'actualité très récente, il n'y a pas de neutralité des élus. Et donc, les élections récentes, les élections municipales, eh bien, vous avez plusieurs élus de la France insoumise à Chalon-sur-Saône qui ont contesté le règlement parce que ce sont des femmes qui ont voulu venir voiler et le maire qui voulait... lutter contre le communautarisme au sein de son conseil municipal avait effectivement pris un règlement sur le fondement du règlement de l'Assemblée nationale disant désormais les élus eux-mêmes ne doivent pas porter de signes religieux. Je pense que ça part d'une bonne intention, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée, parce que pour le coup, un élu, il représente lui-même. Et si on ne permet pas à un élu d'exprimer ses idées, eh bien, on va avoir on aseptise les élus. Un élu, c'est pas un fonctionnaire. Mmh. Et je prends un exemple tout simple. Vous avez, je sais pas si c'est encore le cas, mais dans certaines communes qui sont proches d'une abbaye, je crois que c'est le cas à Font-Rombeau, eh bien, il y a un moine qui siège au conseil municipal. C'est normal. Il représente, je sais pas, 30% de la population du village. Donc, en fait, voilà comment, en fait, en partant de bonnes intentions, élargir. Donc, c'est la laïcité de l'État. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une rupture avec, enfin une rupture, en tout cas une évolution avec la loi de 2004, la loi du 15 mars 2004, parce que pour la première fois, dans les écoles publiques, elles demandent la neutralité, non pas uniquement aux professeurs, ça c'est déjà le cas, puisque c'est des agents de l'État, mais elles demandent aux élèves de ne pas avoir de signes religieux ostentatoires. Alors, ça, on pourra en discuter.
Oui.
Cette loi, moi, je sais que sur le moment, je travaillais à l'époque au Sénat, j'étais assistant parlementaire, et j'étais contre cette loi parce que je pense qu'on aurait pu juger les choses au cas par cas. Et y a un principe en droit, c'est que la liberté est la règle et les exceptions doivent être proportionnées au but recherché. Là, le but recherché, c'est éviter que les conflits religieux ne s'installent à l'école. Et en fait, on demandait en fait, ça faisait trop de pression sur les épaules, trop de charges sur les épaules des proviseurs, qui se retrouvaient avec des conflits qui n'avaient rien à voir avec l'école, qui doit rester le temple du savoir. Et donc, à la fin, c'est les proviseurs eux-mêmes qui ont dit non, il faut que désormais, ça soit systématique. Les habits religieux, alors c'est là où c'est un peu cocasse, c'est que la loi, dans l'exposé des motifs, pour pas stigmatiser une religion, dit ça peut être la kippa, le voile ou la grande croix. Mais est-ce que vous voyez des élèves avec des grandes croix de croisée? C'est un peu cocasse. Mais tout ça pour dire que, du coup, cette loi, elle a été votée et, de fait, elle élargit la laïcité à un certain domaine. Alors aujourd'hui, les débats actuels, c'est de se dire, est-ce qu'il ne faut pas la laïcité au sport? Est-ce qu'il ne faut pas la laïcité dans l'espace public? Alors ça, constitutionnellement, ça ne marcherait pas. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Mais en fait, on voit qu'en fait, on veut, à chaque fois, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que les intentions sont mauvaises. Ceux qui le font, souvent, sont des responsables qui voient un problème qui est un problème de cohésion sociale, avec des questions d'ailleurs pas forcément religieuses, quelquefois ça peut être des questions internationales, c'est Gaza qui s'invite à l'école. Pourquoi tout traiter d'une façon religieuse, comme si le problème c'était la religion? Non, en fait, il y a des problèmes et donc il faut les traiter au cas par cas, mais d'englober et de croire que c'est la religion, comme on dit, donc le fait religieux qui est le problème, non, en fait c'est pas juste, et surtout c'est pas la solution, parce que Bénédicte l'a dit au début, ça va vider l'espace public, ça va le soustraire de toute dimension religieuse. Et donc, ça fait le lit de l'islamisme, des idéologies, de parce que la nature a horreur du vide.
Mais bien sûr, on passe au napalm, on javelise, j'ai envie de dire, et il n'y a rien de pire qu'un endroit javelisé pour la prolifération des germes. Et en plus, on tourne parfois autour du pot. On ne veut pas dire qu'en fait, c'est contre la poussée de l'islam conquérant que l'on veut légiférer ou mettre des barrières. On ne veut pas le dire. Donc, on englobe. C'est un piège. C'est en pensant à ça que, dans le titre de l'émission, j'ai voulu mettre le mot piège. Parce que, Bénédicte Bernard, peut-être pourriez-vous nous répondre, mais comment cette notion de laïcité peut être bien comprise par les musulmans, par l'islam, qui est une théocratie, en fait, hein, qui mélange vraiment les deux. Comment ça peut être compris, ça? Je ne sais pas, un levier presque, non? Enfin, je ne sais pas.
Alors, pour moi, il y a deux aspects. Il y a d'abord que, ce qui a été dit en début d'émission, c'est que la laïcité, elle naît dans un contexte chrétien pour une séparation de l'Église et de l'État. Mais on parle d'Église, on ne parle pas des musulmans. Et on a vu, je vous expliquais en deux mots, l'évolution interne de l'Église en droit canonique sur la conception qu'elle avait d'elle-même et de son rôle dans la société. Et effectivement, on est face à l'islam qui, lui, est une seule et même chose, puisque la charia, c'est un régime religieux et politique et juridique en même temps. Donc, en fait, la laïcité, si on prend les choses sur le papier, hein, elle n'est pas possible avec l'islam, dans le sens qu'elle serait stratégique, mais en tout cas, pas souhaitable pour eux. Alors, je ne sais pas quelle sera leur évolution interne et s'ils ont moyen d'évoluer sur cette question en interne, peu importe. Pour moi, la question, en fait, elle est d'arriver avec ce contexte qu'on a, qui est quand même très particulier, puisqu'on a une laïcité chrétienne qui est devenue folle, comme vous dites, qui a tourné en laïcisme, et qui s'applique maintenant à tous, y compris à une religion qui ne la conçoit pas. On va à l'affrontement sur ces questions-là, mais à la rigueur, j'ai envie de dire, qu'est-ce que peut dire l'Église sur cette question? Dans le sens qu'elle a résolu son rôle, c'est pas elle de résoudre le rôle des autres, entre guillemets. Bon, alors pour moi, la question, elle est celle de l'ordre public, puisque, en fait, la question de la liberté religieuse, elle doit être connue pour tous, catholiques, musulmans et toute autre religion, puisque là, on parle de deux grandes religion monothéiste, mais en réalité, il y en a d'autres. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver une entente? Est-ce qu'elle est possible? Je pense qu'elle est possible. Je pense qu'on peut, parce qu'on a aussi un islam modéré en France, avec lequel il est possible d'évoluer. D'ailleurs, on a vu sur ces questions-là aussi un effort, c'était sous Sarkozy, un effort pour parler, essayer de faire en sorte qu'ils parlent d'une seule voix et sur cette question de la laïcité, avoir un interlocuteur, etc. Bon, c'est un effort qui est fait pour essayer de voir si on peut se réunir sur des valeurs communes. Et à mon avis, c'est par là qu'il faut travailler. Une autre remarque quand même que je ferai et que j'ai entendue, parce que ça m'est arrivé d'intervenir sur cette question de la laïcité, et puis d'évoquer ce qu'on vient de dire sur l'islam qui se heurtait à cette absence de distinction entre le temporel et le spirituel. Et puis, j'ai un converti musulman, qui était musulman, qui est devenu chrétien, qui est venu me voir en me disant « Mais vous ne vous rendez pas compte, en fait, la laïcité pour nous, c'est une chance. Parce qu'on peut apostasier, on peut changer de religion sans être condamné à mort. » Bon, eh bien, ça, c'est peut-être aussi une chose intéressante à regarder, c'est qu'en fait, la laïcité, elle protège. Elle permet aussi aux personnes d'exprimer leur liberté.
D'accord. Voilà. Intéressante cette perspective-là. Pour les minutes qui nous restent, vous voyez comme tout a été vite, mais alors, chers auditeurs, je vous renvoie aux ouvrages parce que notre émission n'est pas faite pour tout dévoiler, tout dire et tout approfondir. Je vous renvoie donc à l'ouvrage de Benoît Dumoulin, « Quelle laïcité pour demain ?» aux éditions Bolène. Et « Les indésirables, prolophobie chez Fayard » de Diane de Bourguedon. Diane, c'est peut-être vous qui allez commencer. Je vous propose pour clore l'émission des pistes de réveil. Le sous-titre du livre du cardinal Sarah avec Nicolas Diat, 2050, le sous-titre est « Dans 25 ans, l'Église sera-t-elle encore un phare ou l'écho lointain d'une voix oubliée ?» Eh bien, Diane de Bourguedon, à la lumière de tout ce que vous observez avec tant d'acuité, en fait, on vous sent très... vous avez ce talent, je pense, qui vous a été donné de percevoir avec acuité et de dire. Eh bien, sans être Madame Soleil, dans 25 ans, comment pourrions-nous avoir travaillé pour réveiller ces voix matérielles, spirituelles, intellectuelles?
Vous l'avez cité tout à l'heure, je pense que si aujourd'hui, il y a deux phénomènes parallèles qu'on ne peut pas nier aujourd'hui, c'est qu'il y a aujourd'hui deux religions qui suscitent un fort engouement dans la jeunesse. On a évidemment, et personne ne peut l'ignorer, on a l'islam qui prend une place de plus en plus forte dans toute une partie de la jeunesse française, et en particulier la jeunesse issue de l'immigration. Et on a dans le même temps, alors il faudra voir sur... parler d'un horizon de 20 ou 25 ans, il faudra voir ce que ça donnera aujourd'hui, mais on a une petite lueur du côté catholique avec une augmentation croissante du nombre de jeunes et notamment aussi pas que des jeunes, d'ailleurs des personnes qui demandent le baptême et Pâques arrive, on va voir cette année encore les chiffres. De quoi cela est-il le signe? Il me semble que en fait, l'être humain a profondément besoin de transcendance. Et on a peut-être cru à un moment donné qu'on pouvait s'en passer et que la société serait plus apaisée, mais aujourd'hui, il faut faire le constat que ce n'est pas le cas. Et ce besoin de nourriture spirituelle que nous montre la jeunesse, parce que la jeunesse, elle est toujours plus, radicale. Donc elle nous montre les choses avec un angle très fort. Je pense qu'elle est, elle est signe d'espoir. L'être humain donc a cette soif de transcendantalité, elle a cette soif de métaphysique. Eh bien donnons-lui cette nourriture spirituelle dont il a besoin. Et ce que j'espère, c'est que on puisse à nouveau parler de notre passé et de nos racines, susciter un amour de la jeunesse et tout cela fermente de manière positive et conduise effectivement à une société plus imprégnée, enfin moins matérialiste en tout cas, et plus imprégnée de spiritualité et en tout cas qu'elle soit apaisée, c'est ce qu'on peut espérer.
Bénédicte Bernard, que réveiller, comment le réveiller, donner de l'espérance à nos auditeurs?
Alors je crois que ce que vient de dire Diane, je souscris tout à fait. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à rajouter. Je dirais aussi retrouver... Alors pour moi, il y a trois axes de réflexion. Il y a la question de la nature humaine, qui va avec la question de la famille que vous évoquez. Il y a la question du droit, de récupérer aussi le droit naturel. Et la question métaphysique, qui est vraiment importante, parce qu'en fait, c'est vrai que si on réveille toutes ces soifs, en fait, et qu'on leur on donne aussi ce qu'il faut pour la source, je pense que quand même, on a matière.
Et vous y travaillez aux éditions Bolen avec la diffusion d'excellents ouvrages. Notamment, ici, à Radio Courtoisie, a été interrogée Christine Sourgins, dont vous publiez toute la série de livres magnifiques sur la beauté. Je renvoie nos auditeurs à toute cette belle publication. Bien sûr, chacun a sa place. Et vous, chers auditeurs, où que vous soyez, on a tous un périmètre d'action, mais vraiment, il faut s'en emparer. Je pense que si on s'emparait tous de ce qui est à notre portée, avec simplicité, il ne s'agit pas d'aller plus loin que cela, mais déjà aux frontières du possible pour nous, le monde irait mieux. Benoît Dumoulin, vous revient la charge de conclure cette émission à la lumière de votre travail sur la laïcité, à la lumière de tout ce que vous faites à Ictus et par ailleurs dans la transmission. Comment, pourquoi et que réveiller?
Vaste question. Alors, je pense d'abord qu'il faut vraiment donner une espérance. C'est ce qui, moi, me frappe le plus. Et de fait, je comprends très bien, c'est la question de l'euthanasie aussi, quand on n'a pas l'espérance dans un autre monde, eh bien, les choses sont beaucoup plus dures. Et je crois vraiment que donner l'espérance d'une autre vie. Enfin, c'est pas une autre vie, c'est d'un autre monde, mais c'est la même vie qui se poursuit. Et c'est magnifique et c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est la deuxième chose, retrouver une place juste du fait religieux. Ni en parler à toutes les sauces dans un mélange des genres, qui peut conduire au problème qu'on a soulevé, ni en faire un tabou. C'est-à-dire que moi, je suis mais vraiment ébahi, on peut pas. Quand, par exemple, vous avez des œuvres magnifiques d'église dans le domaine de l'éducation, elles ne peuvent pas avoir de subvention parce qu'elles sont confessionnelles. Comme si leur mission éducative, qui s'adresse à tout le monde, quelle que soit la confession, qu'on soit catholique, musulman ou sans religion, comme si ce travail éducatif n'avait pas une valeur en soi. Et c'est là où aussi il faut sortir de ce laïcisme. Donc, retrouver l'espérance, sortir du laïcisme parce que c'est une impasse et que ça nous maintient malheureux, hein, je crois que c'est ça. Les auditeurs veulent bien aller sur le site ictus.fr, vous verrez qu'il y a plein de propositions pour toutes les tranches d'âge. Vous avez parlé des mardis d'Ictus, nous allons avoir une conférence mardi prochain avec Max Erwan Gastineau qui parlera d'Habermas. Alors Habermas, justement, c'est un grand moment de l'histoire européenne. C'est quelqu'un qui a voulu pousser le rejet de la nation fondée sur une culture jusqu'à son extrême limite. Sa démarche est honnête intellectuellement, mais c'est une impasse. Donc, ça sera intéressant. Après, petite pub personnelle, pardon, mais le 16 avril à Ictus, il y aura une séance de dédicace sur quelle laïcité pour demain. Donc vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, si vous le souhaitez. Et puis plus généralement, si vous avez des enfants ou vous-même, vous êtes étudiant, parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, étudiants, lycéens, jeunes pros, eh bien, il y a des offres sur le site d'Ictus que je ne vais pas détailler là, mais vous trouverez tout, à la fois pour vous former, pour retrouver des gens qui partagent la même préoccupation. Vous savez, c'est important, ça, de ne pas être isolé quand on est seul dans sa fac, dans son boulot. Et puis, participer à l'édification de la société de demain, fondée sur le bien commun.
Merci beaucoup, Benoît Dumoulin. Donc, je renvoie nos auditeurs de Radio Courtoisie sur le site ictus.fr. Aux éditions Bolene, B-O-L-E-I-N-E. Vous avez un ravissant magasin rue de Bourgogne, dans le 7e à Paris. Je les renvoie à l'essai et aux travaux, aux publications régulières de Diane de Bourguédon, avec son livre Les Indésirables, Prolophobie, à suivre. Je pense que ce livre va même ouvrir des voies, peut-être des contacts, des réseaux. Vous parliez du réseau, Benoît. Cultivons bien aussi tous nos réseaux de formation, d'action. Et surtout, je retiens ce mot que vous venez de prononcer, que vous avez prononcé les uns et les autres, ce mot d'espérance. Restons dans l'espérance. Chers amis, je vous souhaite une très belle semaine sainte, une très belle montée vers Pâques, la résurrection. Et pour ma part, je vous prépare dans la joie l'émission prochaine dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Transmission, dirigé par Valérie Daubigny, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, lundi 30 mars 2026, de midi à 13h30, réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.